Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous êtes devenu l'un de nos plus grands chefs après de jeunes années où vous auriez pu multiplier les casseroles, mais vous n'avez jamais cessé de mener des combats qui n'étaient absolument pas question de perdre. Vous le racontez aujourd'hui dans un livre. Bonjour Thierry Marx.
Bonjour.
Alors ce livre, c'est Celui qui ne combat pas a déjà perdu, chez Flammarion, une très belle phrase qu'on devrait tous garder en tête en ce moment. On va en parler tout à l'heure, mais on va aussi parler de votre parcours qui est hors du commun à travers des dates. Et la première date que j'ai trouvée, c'est le 6 mars 1965. C'est une date qui correspond... Écoutez le générique. Belphégor, feuilleton de télévision. Premier souvenir de télévision pour vous, Thierry Marx.
Oui, complètement. C'était mon grand-père avait acheté une télévision à pièces.
C'est drôle, c'est rare. Ça.
Oui. Alors, on faisait des économies, hein, et on mettait des pièces de monnaie derrière. Il avait récupéré ça dans une clinique, je crois. Et on avait des feuilletons célèbres. Et celui qui me terrorisait, évidemment, c'était Belphégor qu'on regardait sur le coin du lit. Là, c'était quelque chose de terrifiant, et en même temps, ça donnait envie de découvrir le Louvre.
Oui, et en même temps, ça a été un immense succès puisque pendant les 4 semaines de diffusion de ce feuilleton de Claude Barma, la France a été vide, c'est-à-dire les cinémas étaient vides, les théâtres étaient vides, on regardait Belphégor.
Ah oui, c'était l'intrigue du samedi soir, après le travail, parce qu'à cette époque, on travaillait encore le samedi pour beaucoup de gens.
Oui, et votre père travaillait beaucoup. Il a été longtemps absent, parce que je crois qu'au départ, il était soldat en Algérie, Thierry Marx.
Oui, mon père a fait la campagne d'Algérie, et il est rentré en 1962. Et je me souviens, moi je suis né en 59, et j'étais avec ma maman rue du groupe Manoukian. Et je me souviens de son retour quand il a été, pas démobilisé, parce que je crois qu'il était engagé volontaire, mais je me souviens de son retour. Ouais.
Il a travaillé dans le bâtiment. Votre mère, je crois, était laborantine, oui. Et elle vous a élevé dans un quartier que Maurice Chevalier a chanté.
Les gamins montants sont toujours remontants.
Lui aussi, Maurice Chevalier, Thierry Marx, a grandi avec sa mère, la Louque, dans des conditions difficiles. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Le père était alcoolo et était parti. Et il a commencé vraiment dans les cafés-concerts avec comme salaire un café au lait.
C'est vrai, quand on lit l'histoire de Maurice Chevalier, c'est vrai. Et puis comment il s'est approprié finalement ce quartier de Ménilmontant. Et d'ailleurs, il le décrivait très très bien, ce quartier des Apaches, mais ce quartier aussi de la différence sociale. Il y avait l'ouvrier, vraiment l'ouvrier d'ateliers populaires, et puis il y avait le petit artisan et le petit bourgeois moyen qui avait réussi à tirer son épingle du jeu. Tout ça, toutes ces extractions sociales vivaient entre Belleville et Ménilmontant. Et puis un quartier de la diversité très tôt.
Voilà. Et il y a quelqu'un de très important dans votre vie, Thierry Marx, c'est votre grand-père qui vous a appris l'effort physique.
Ah oui, mon grand-père, il était passionné de Georges Carpentier.
Le boxeur,
ami de Maurice Chevalier. Et mon grand-père n'avait que de souvenirs de Georges Carpentier, du combat contre Dempsey, et de m'entraîner avec lui dans l'effort physique. Mon grand-père a pratiqué la boxe française très longtemps. Et à chaque fois qu'il voulait m'emmener faire un effort physique, il me disait « C'est comme ça que Marcel Cerdan s'entraîne ou Georges Carpentier s'entraîne. » Alors j'étais obligé de couper du bois avec lui parce que il avait l'impression que si on avait la condition physique dans la vie, on pouvait tout affronter.
Voilà. Et il a eu quelques problèmes pendant la guerre, je crois. Hallucinant. Voilà,
mon grand-père était devenu français. Sa famille était devenue française en 1917. Il était sur la Somme. Et puis, en 1942, il était arrêté. Et puis on lui a demandé évidemment un certificat de baptême qu'il n'avait pas, et puis il avait été membre du Parti communiste, Donc arrêté, son frère a été arrêté et déporté, mais lui a réussi à s'échapper et à rejoindre un maquis à Toulouse, comme beaucoup de gens qui avaient été arrêtés à cette époque pour le service du travail obligatoire.
Il a vendu l'humanité dans la rue, et pour les enfants, il y avait un journal qui s'appelait Vaillant, le journal de PIF, et ça s'appelait Vaillant à cause du mouvement communiste de jeunesse, des cœurs vaillants, et des vaillants et des vaillantes.
Ah oui, exactement, moi j'ai vendu... eux vendaient l'UMA, les anciens. Alors c'était un drôle de parti communiste, parce qu'il y avait la cour du haut et la cour du bas, et il y avait deux, dans les mêmes endroits, une cellule du parti communiste, Et c'était des gars qui avaient plutôt fait la guerre ensemble, la résistance ensemble. Ils en, certains en étaient revenus. Et ils avaient gardé cette, je dirais presque, cette fraternité d'armes, au-delà de l'idéologie politique, parce que la plupart ont quitté le Parti communiste ensuite, dans les années 55-60. Mais ils avaient gardé cette fraternité d'armes et cette fraternité d'atelier aussi, qui, à mon avis, s'est beaucoup perdue. Et nous, les mômes, ben, on vendait, on attirait les gamins et les parents avec Pif le chien, et eux vendaient l'humain.
Alors, et cette époque aussi, pour vous, c'est important parce qu'on vous a appris, Thierry Marx, à ne jamais vous plaindre, à ne jamais être malade.
Ah oui, c'était pas une famille où fallait se plaindre, c'était une famille où il fallait... D'ailleurs, mon grand-père avait une phrase toute faite, je l'écris dans le livre, il disait « Oh non, mais t'inquiète pas, il y a que la mort qui est irréversible. » Alors, ça paraît terrifiant quand vous entendez ça à 6 ans, mais c'est tellement vrai. Tant que vous avez, ne serait-ce qu'une petite douleur, c'est que vous êtes encore vivant. Alors, si vous êtes vivant, faut vous battre, faut avoir un projet, faut redresser. Et c'était toute la méthode un petit peu de l'éducation familiale. Ma maman était pareille, elle se plaignait jamais. Donc comme elle ne se plaignait jamais, bah on n'avait pas non plus trop envie. C'était vraiment une construction par l'exemple.
Oui, et avec une enfance difficile, parce que quand vous avez quitté Ménilmontant, Thierry Marx, vous êtes allé à Champigny. C'était pas le Champigny d'aujourd'hui, mais c'était quand même pas terrible.
Ah non, c'était pas terrible du tout. Et puis, Ménilmontant, Belleville-Ménilmontant, quartier de la diversité, mais quartier des petits métiers, des petits boulots, des petits artisans, un quartier extrêmement fraternel. Et quand on arrive à la cité des Bois-l'Abbé ou la cité des Boulereaux, eh bien, il y a 3000 logements au milieu de rien. Et là, c'est le désœuvrement total. Et puis, le désœuvrement dans l'entrée à l'adolescence, qui fragilise beaucoup le jeune adolescent que j'étais. Et si j'avais pas, à ce moment-là, rencontré l'univers du club de judo de Champigny-sur-Marne et du ring montreuillois, eh bien, la cage d'escalier était quand même... pouvait nous conduire à des projets qui n'étaient pas des projets positifs, mais plutôt des projets négatifs.
Oui, Pierre Lazarev, grand directeur de France Soir, lui dit avoir fait HEC aux études communales, et vous avez fait HEC aux études carburateur.
Exactement, ouais, alors on sait pas comment on montait, on sait pas d'où venaient les mobilettes qu'on montait et qu'on démontait, mais en tout cas, j'ai dû nettoyer quelques carburateurs, ce qu'on appelait des Delortos de 19, avec de l'essence pour qu'ils soient rutilants, et les motos avaient une espérance de vie extrêmement courte, parce qu'on trafiquait ça tellement que ça craquait au bout de 30 km, quoi. C'était complètement fou.
Oui, et on parle des rodéos aujourd'hui dont on se plaint. Vous en avez fait aussi, Thierry Marx.
Ah oui, oui. Puis alors, on en faisait parce que on était au pied de la construction de l'autoroute qui allait à Metz et qui était en plein travaux. Et donc, on avait des tronçons qui s'ouvraient comme ça. On descendait les mobilettes à pied et puis on faisait des accélérations sur ce nouveau coffrage qui venait sectionner le Val-de-Marne pour aller vers l'Est français.
Et puis, bon, l'école, c'était pas votre truc, Thierry Marx, et vous rêviez de l'école hôtelière, mais vos parents ne voulaient pas.
Alors, c'est pas mes parents qui voulaient pas. Mes parents comprenaient pas pourquoi l'école hôtelière, parce que personne n'avait d'affinité pour ce métier. Moi, c'était l'impression d'avoir un costume, de vivre dans une petite bourgeoisie. Et j'avais l'impression que l'école hôtelière était réservée aux petits bourgeois, et ça m'intéressait beaucoup. Et j'ai l'impression qu'il y avait une éducation à l'école hôtelière, donc j'ai demandé l'école hôtelière, et on a dit, non, c'est pas pour des gens comme vous, ça c'est la conseillère d'orientation, je peux la comprendre maintenant, vu le look que j'avais, mais elle disait, vous ferez mécanique générale. Et 80% des jeunes gens qui étaient issus de mon quartier, on allait en CET de mécanique générale, on n'y comprenait rien d'ailleurs, pourquoi on y allait spécifiquement en CET à Saint-Maur-des-Fossés, où on apprenait à dégrossir sur des tours ou des fraiseuses du métal.
Alors, ce qui vous a sauvé, Thierry Marx, ce sont les Compagnons du Devoir, qui existent d'ailleurs depuis le XVIe siècle.
Ah, complètement. J'ai eu la chance de... Le premier cadre éducationnel, ça a été le sport. Deuxième cadre éducationnel, ça a été effectivement l'apprentissage, les compagnons des Devoirs Unis, qui m'ont permis de m'aguerrir en termes de métier et d'avoir la fierté d'être dans le monde ouvrier. Je me souviens d'un ancien qui disait « On est la noblesse du monde ouvrier ». Or que nous, on vivait dans des cités ouvrières où on était plutôt dénigrés. Là, il me montrait que quand on avait du savoir-faire, on devenait un homme libre, libre de choisir pour qui on allait travailler. Et ça, je trouvais ça formidable.
Et vous êtes devenu un homme libre après avoir appris un métier, car aux Compagnons du Devoir, vous avez appris finalement.
Oui, j'ai fait mon tour de France en tant que pâtissier.
Oui.
Et j'en garde un excellent souvenir, parce que j'ai découvert un métier, mais j'ai aussi découvert la France. Et ça, c'était formidable, de passer de Nantes à Nîmes, de Nîmes à Marseille, de Marseille à Montauban, de croiser des personnages extraordinaire de savoir-faire, de compétences métiers. Moi, je me souviens des passages dans de très jolies maisons avec des compagnons qui étaient des compagnons de l'excellence. Enfin, vraiment, c'était, et il y avait des chemins de loyauté qui se nouaient là.
Voilà. Et ça a été le point de départ d'une carrière qu'on va continuer à évoquer dans quelques instants à travers une autre date, le 27 septembre 1985. À tout de suite sur Sud Radio avec Thierry Marx.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Thierry Marx. Il y a ce livre, Celui qui ne combat pas a déjà perdu chez Flammarion, et il y a un parcours avec une date, 27 septembre 1985, le mariage de celui dont on va entendre la voix.
Bonjour. Je voudrais savoir si...
Yves Mourouzi, mariage à Nîmes, je crois, j'y étais d'ailleurs, avec une feria en même temps, c'était extraordinaire, avec Véronique, sa femme. Et vous, plus tard, vous avez connu Mourouzi, puisque vous êtes arrivé à Nîmes dans un restaurant qui s'appelait le Cheval Blanc.
Oui, il y avait Régine, il y avait tout un parcours extraordinaire. Moi, j'ai fait la connaissance de Régine à cette époque-là, et quelques années merveilleuses à Nîmes. Première étoile, premier savoir-faire, premier critique gastronomique, et puis surtout rencontrer des personnages extraordinaires, comme Yves Mourouzi, bien sûr, son épouse, et puis un torero comme Paco Reda, qui me bluffait. Moi, je le voyais arriver dans l'hôtel, et puis des tablés de gens célèbres qui venaient pour cette feria, et puis un maire de Nîmes qui était quand même un homme... sans lui manquer de respect, une gueule, vraiment quelqu'un qui avait un caractère en acier trempé, qui s'appelle Jean Bousquet, et je me souviens comment il avait dynamisé cette ville.
Oui, alors Régine était la première femme de discothèque à imaginer des grands cuisiniers dans ses restaurants, dans ses boîtes. Elle avait commencé, je crois, à Paris avec le Régine Skaya, et elle avait repris le Doyen, qui est un restaurant très célèbre, pour essayer de le sauver. Et ce restaurant avait une histoire, il y avait des couverts en vermeil, et les clients tentaient d'emporter des couverts en vermeil. Je ne sais pas si vous avez tiré.
Oui, moi j'ai connu. Et chez Le Doyen, on a eu un conseiller qui était Jacques Maximin, cuisinier extraordinaire, de créativité. Enfin, non, c'était des expériences avec Régine extraordinaires. Monsieur Guérard avait travaillé aussi pour Régine. Moi, j'ai été très honoré de travailler pour elle et de vivre cette expérience nîmoise plutôt réussie, d'ailleurs, parce qu'on a eu une telle notoriété. On a eu une étoile très rapidement. Enfin, on a obtenu une distinction au Goemio. J'avais une équipe formidable. Non, c'était...
Et comment elle vous a repéré, Régine?
Grâce à Monsieur Robuchon, qui m'avait recommandé à Jacques Maximin, et Jacques Maximin m'avait recommandé à Jean Bousquet, et j'ai été recruté dans la foulée.
Alors, la première personne qui vous est fasciné, Thierry Marx, c'est un pâtissier qui s'appelait Bernard Ganachot.
Oui, c'était un boulanger. J'étais gamin, quartier de Ménilmontant. Je vivais au 140 quand j'étais vraiment dans la petite enfance, et je voyais cet homme qui avait réussi à imposer son métier, sa présence physique dans le quartier, qui était un quartier quand même au 140 ans, qui était assez compliqué, et de croire à l'économie de la qualité. Et ça, c'est la magie de l'artisanat de luxe, de qualité, parce qu'il était dans un quartier populaire, mais il a imposé sa baguette, son pain. Il n'est pas rentré dans les codes de l'État qui imposait un prix du pain à l'époque, et il a eu une réussite incroyable, parce que le pain était bon, parce que le pain était de qualité. Et je me disais toujours... Moi, je suis pas très bon à l'école, mais si j'arrive à faire un métier comme ça, je suis sûr que je m'en sortirai. Et Bernard Ganachot était un rôle modèle du quartier, mais des deux gamins comme moi qui voyaient cet homme qui avait osé construire un four dans la vitrine de sa boutique. Or qu'avant, on cachait le boulanger. Lui, il était en vitrine et il était extraordinaire. Et on le voyait, ça sentait bon. Et moi, qui ne se rappelle pas de son petit pain gâteau de riz qui cuisait le jeudi et qu'on pouvait garder comme ça plusieurs jours. Ma grand-mère en achetait de temps en temps, c'était extraordinaire.
Oui, et Guy Savoy, autre grand cuisinier, a commencé comme vous à Bourgain-Jallieu, c'est-à-dire que sa mère l'a placé chez un pâtissier où il a commencé à travailler avant d'aller chez Trois Gros.
Ah oui, c'est souvent le cas. Je me souviens de l'histoire de Guy Savoy, c'est effectivement un chef formidable, mais on est souvent passé, et on a la chance de passer par la pâtisserie ou la boulangerie qui nous apprend à... Ça nous apprend à codifier un petit peu les choses, à grammer un petit peu les choses. Et après, quand on se retrouve en cuisine, je trouve qu'on est un peu plus organisé que que certains qui commencent tout de suite par la cuisine.
Alors, vous avez aussi commencé, non pas en France, vous avez travaillé en Australie au départ, Thierry Marx.
Oui, retour de l'armée.
Vous étiez casque bleu au Liban, je crois.
Ah oui, le régiment dans lequel j'étais avait été engagé force française à Beyrouth. Mais au retour, je reprends mes études. Et à la reprise de mes études, je me dis, la France n'aura pas grand-chose pour moi. Je vais essayer l'international. Et il y avait des petites annonces sur les journaux, notamment dans France Soir. Et j'avais postulé plusieurs postes. Et j'ai été pris comme boulanger-pâtissier au Regency Hotel à Sydney. Et qui, je ne gagnais pas suffisamment ma vie. Donc on m'a proposé, comme j'étais français, de travailler aussi au service des banquets. Donc j'avais deux jobs. Et je faisais illusion, c'était totalement le mythomane de service. J'avais un livre de cuisine que je recopiais.
Ah bon ?
Et je faisais illusion. Et que ce soit bon ou pas bon, d'ailleurs les gars ne faisaient pas trop la différence. Parce qu'on faisait du banquet, on faisait entre 200, 300, jusqu'à 1000 couverts. Donc c'était pas... ça m'a fait découvrir le monde de la cuisine. Et ça m'a donné envie de passer mon CAP, de revenir en France. Et là, en revenant en France, en passant mon CAP rue Béliard à Paris, en cours du soir... j'ai eu la chance de croiser deux très bons chefs, Monsieur Genoux et Monsieur Labatte, et qui m'ont dit, tu sais, ça suffit pas d'avoir un diplôme, il faut travailler avec les plus grands. Donc je suis allé me présenter chez Bernard Loiseau, qui m'a pas embauché, mais c'était un homme formidable, Bernard Loiseau.
Oui, un personnage incroyable.
Incroyable, et chef Bernard m'a invité à déjeuner. Et il m'a pas embauché, mais et je me rappelle comme si c'était hier du repas qu'il m'a servi. J'étais avec Georges Pralu. Et je me suis dit, si je dois faire ce métier, je veux le faire comme lui. Donc parler de la cuisine, parler de l'établissement que j'aurais racheté, parler de tout ce qu'il... de ses producteurs, enfin il m'a fasciné. Je suis arrivé à Paris, je me suis présenté dans deux restaurants, un qui s'appelle La Marée, l'autre qui s'appelait Taïwan. La Marée m'a dit non, écoutez, on n'a rien pour vous.
Monsieur Trompier,
et Monsieur Deligne m'a dit, vous arrivez d'où? Et j'ai dit, chez Bernard Loiseau. Alors, il a dû vérifier quand même, mais le lendemain, j'étais au boulot et j'étais bluffé parce que c'était une écurie de Formule 1, c'est ce restaurant Taïwan. Les meilleurs voulaient passer chez Taïwan. Et le chef Claude Deligne m'a mis sur le, comme disent les Anglais, sur le ramp-up pour croiser l'univers d'autres chefs comme Joël Robuchon, mais aussi comme Alain Chapelle et d'autres.
Voilà. Et Taïwan était dirigé par un monsieur qui ne faisait pas la cuisine, c'était Jean-Claude Vrina.
Oui, extraordinaire restaurateur, oui, personnage, grand gestionnaire de restaurant, grand connaisseur aussi du monde du luxe, de l'univers de la qualité, et c'était un modèle, c'était un monsieur qui nous faisait peur quand même, on avait 25 ans, mais il avait un sens de la règle, de la qualité, il ne transigeait sur rien, enfin mais en même temps on apprenait tellement, c'était le prix de ce savoir-faire.
À propos de 25 ans, Thierry Marx, je crois que vous avez passé votre bac à 25 ans.
Oui, 26 exactement, je l'ai eu le résultat à 26 ans, je l'ai commencé à 25 ans parce qu'on était un petit groupe, de gens comme moi, issus de la diversité, issus de quartiers un peu compliqués, de scolarité empirique, et on était avec des personnes qui souhaitaient passer des concours, essayer de réussir dans leur vie, et qui s'étaient réinscrits comme moi au cours du soir. Et donc il y avait une telle émulation dans ce cours du soir, et des profs très sympas. Ils nous ont accompagnés d'abord au brevet des collèges, et ensuite ils nous ont accompagnés au baccalauréat.
Et on ne peut plus imaginer un parcours comme le vôtre aujourd'hui, dans les écoles de cuisine, Thierry Marx ?
Je crois que si, non, on peut encore l'imaginer. Je trouve qu'il y a des gens aujourd'hui capables de prendre un projet à bras-le-corps, et notamment de ne pas se laisser assigner à un quartier ou à une extraction sociale, et d'accepter de relever le défi de l'épanouissement et de regarder devant.
Et pour arriver à ça, il a fallu bluffer. Vous avez parlé de ce livre de cuisine, ça s'appelait, je crois, La cuisine de Gringoire et le Saunier.
Oui, c'est ça.
Et c'était le guide culinaire, inspiré du guide culinaire de
Ah oui, complètement. Et d'ailleurs, il n'y a pas de grammage. Donc c'était très compliqué, il n'y a aucun grammage, c'est juste pour se rappeler des recettes de façon assez méthodique, mais c'est un raccourci du guide culinaire que je connais, je n'ai pas pris la prétention de dire par cœur, mais que j'ai tellement étudié parce que j'ai une telle passion pour Escoffier.
Voilà, et ensuite c'était la recette du succès, on en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 22 février 2010. A tout de suite sur Sud Radio avec Thierry Marx.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Thierry Marx. Ce livre, Celui qui ne combat pas a déjà perdu, un cadeau de Noël idéal chez Flammarion. Et puis une date, 22 février 2010. Ça vous dit quelque chose ? Écoutez, écoutez ça. générique de Top Chef, première de Top Chef, et qui y a Thierry Marx.
Oui, ouais, c'était une expérience super. Il y a eu cinq saisons de Top Chef avec Jean-François Piège, Christian Constant et Guylaine, bien sûr, je n'oublie pas Guylaine. Et c'était une première. On avait en face de nous une autre émission, mais avec des amateurs. Premier concours de cuisine, j'ai trouvé ça passionnant. Et puis surtout, ça m'a beaucoup aidé pour le développement de mes écoles dans les quartiers. Et évidemment, j'ai bénéficié de Top Chef. Et de la lumière que donnait Top Chef pour aller chercher le sponsoring dont j'avais besoin pour monter les écoles d'insertion qu'on a aujourd'hui, qui sont au nombre de 9.
Et dont on va reparler. Comment êtes-vous arrivé dans Top Chef, Thierry Marx ?
Complètement par hasard, quelqu'un est venu me revoir. Cette personne avait vu l'envoyé spécial qui m'avait été consacré en 2006, je crois. Et elle avait vu quelques sujets, quelques papiers, et elle m'a proposé de rentrer dans le jury de Top Chef. Ça a fonctionné, c'était une première, hein, j'avais jamais fait ça. Et j'étais assez touché d'ailleurs, parce que je trouvais qu'il y avait des choses à dire sur ces jeunes gens qui aujourd'hui sont de véritables passionnés, qui commencent tout de suite par la créativité, or que nous on commençait par les bases, et quand ils vont vers cette créativité, ils vont chercher les bases des fois un petit peu après. Mais j'ai découvert de très jolis cuisiniers et cuisinières, des chefs aujourd'hui qui sont installés et qui sont passés par Top Chef, donc c'est formidable.
Et vous avez créé une bande, ce qui n'existait pas à la télévision, parce que la cuisine, ça n'intéressait personne à la télévision à l'époque, Thierry Marx.
Alors, il y a eu dans Top Chef quelque chose de différent. Je ne sais pas pourquoi, moi je ne peux pas l'analyser, mais on avait tous connu les émissions de cuisine, y compris celles auxquelles on avait participé, comme celle du chef Joël Robuchon. Mais il n'y avait jamais eu de concours en direct comme ça. Un concours qui mêle l'expérience, l'audace, la créativité dans un instant très court de réalisation. Donc il y a un challenge permanent pour ces jeunes gens qui est quand même très 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 télévisuel. Et puis un jury, même encore aujourd'hui, qui est un jury d'experts, hein, vraiment de gens qui sont capables d'amener et de sortir le meilleur de ces jeunes gens. Je crois qu'il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier chez Top Chef. Tous ceux qui ont participé à Top Chef, on garde l'usufruit.
Oui, il faut les soutenir en plus plutôt que les démolir, même quand ils ratent leurs recettes.
Oh, c'est le but. D'abord, c'est le but des aînés. S'il y a critique, c'est une critique constructive. C'est pas une critique pour abîmer quelqu'un. Bien au contraire, c'est pour l'aider à nous dépasser. Souvent, à dépasser les aînés.
On dit toujours que la première émission de télévision sur la cuisine, c'était Art et Magie de la cuisine, avec Raymond Oliver et la femme de moins de 50 ans, qui était Catherine Langer, la ménagère de moins de 50 ans. En fait, c'est faux. Il y a eu un an avant, en 53, une émission que tout le monde a oubliée, qui s'appelait Monsieur X. C'était un comédien qui s'appelait Georges Adet, qui avait un tablier et qui faisait des recettes. C'était n'importe quoi. Je ne sais pas si vous avez vu un jour des séquences.
J'ai vu une séquence de ce monsieur, et c'était quand même une cuisine très bourgeoise, et il a été vraiment dépassé ensuite quand Raymond Oliver est arrivé. Raymond Oliver, cette aura de grand chef, avec des fois des propos un petit peu surtravaillés, mais une grande cuisine, un grand connaisseur de la cuisine, et surtout le tandem avec Catherine Langer était extraordinaire. Et je ne boude pas mon plaisir quand je regarde le Gentleman d'Epson, on voit quelques secondes un extrait de Raymond Oliver et de Catherine Langer quand il fait « Prenez un bon faisan ». Et dans le dialogue, le type « Ah, quand on parle du loup !» et Jean Gabin entre en scène. Et c'est extraordinaire. Il y a ce moment avec Catherine Langer et Raymond Oliver, c'est formidable.
Oui, et d'ailleurs, ce qui était extraordinaire, c'est les séquences qu'on voit aujourd'hui, où à la fin de l'émission, les plats étaient prêts, et toute l'équipe se précipitait pour dévorer le plat sur le plateau.
Ça n'a pas tellement changé, ça. Moi, j'ai eu la chance de faire les carnets de Julie pendant 12 ans, quasiment, 52 émissions, je crois, formidable Julie Andrieux, et à chaque fois qu'on avait fini les plats, qu'on disait, bon, clap, fini, ça y est, on arrête, fin de la journée, toute l'équipe technique venait goûter ce qu'on avait préparé. C'est quand même très enthousiasmant.
Alors, grâce à Top Chef, vous êtes devenu célèbre dans le grand public. Ouais. Ça a changé aussi votre vie, qu'on vous reconnaisse dans la rue, que vous soyez autrement jugé.
Oui, mais enfin, c'est quelque chose qu'il faut mettre au service des autres. C'est pas, vous ne vivez pas, vous ne faites pas votre vie autour d'une mise en lumière, en sachant que la mise en lumière est éphémère. Donc, la télévision, ça s'allume et ça s'éteint. Et quand la lumière n'est plus là, il faut un autre projet. Donc, non, j'ai été ravi de Top Chef, parce que Top Chef me permet encore aujourd'hui, et M6 m'a longtemps accompagné sur nos projets d'insertion et de réinsertion des personnes très éloignées de l'emploi, et j'ai un merci à Top Chef pendant cinq saisons.
Alors, vous avez fait de la télévision télévision, mais vous ne regardez pas la télévision, Thierry Marx.
Non, bah parce que j'ai des horaires décalés, comme les gens de mon métier. Donc je pars plutôt assez tôt le matin, je rentre tard le soir. Et puis à un moment donné, je me désinforme. L'information en boucle, c'est quelque chose qui me pèse un petit peu. Mais par contre, je ne suis pas à dénigrer la télévision, parce qu'il y a de très très bons sujets en télévision. Il y a encore de très très belles choses à faire en télévision. Et revenons aussi à la culture. Je suis quand même, je fais partie de ces enfants du Haut Théâtre ce soir. Si j'ai eu envie de parler un bon français, c'est qu'à un moment donné, je me suis intéressé à des gens qui parlaient bien le français, et notamment au Théâtre ce soir, apostrophe. Je veux dire, on demande quand même, je pense que, sur des formats peut-être plus courts, mais il y a une demande encore pour une culture et une curiosité de la culture, que la curiosité liée à la culture nous manque un peu aujourd'hui à la télévision.
Oui, car je crois que le public est d'accord avec vous, mais les dirigeants n'ont pas encore compris. Il faudra qu'ils...
C'est dommage. La vulgarité, c'est des fois déprimant. Or, que quand on avait un volet d'apostrophe, ou quand on avait un bon au théâtre ce soir, on disait « Ah, c'est ça la scène. Ah, c'est ça le mot. Ah, c'est ça la force d'un mot sur une scène, etc. » Moi, je me souviens des théâtres ce soir avec Jacqueline Maillan. Qui n'a pas un souvenir de ma génération du Haut Théâtre ce soir.
Jacqueline Maillan était géniale, Pierre Barillet et Jean-Pierre Grédy qui écrivaient ses pièces. Alors, il y avait un sujet, une pièce, et à la fin, elle improvisait, elle rajoutait pendant les répétitions, et les auteurs n'avaient absolument rien à dire, mais c'était génial.
Exactement, et nous qui sortions pas beaucoup dans le quartier de Ménilmontant avec ma grand-mère et mon grand-père, eh bien, on avait Au Théâtre ce soir, ce qui ne nous empêchait pas avec mon grand-père, après Au Théâtre ce soir, de regarder le catch.
Oui.
Avec Ben Chemoul. C'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Et l'Ange Blanc.
Avec Roger Coudert qui commentait.
Avec Roger Coudert qui commentait les péripéties du bourreau de Béthune. C'était extraordinaire. Je veux dire, moi j'ai des souvenirs de télévision et je ne dis jamais de mal de la télévision parce que je crois encore que c'est un média utile.
Oui, et très utile et de plus en plus. Et dans la culture, vous avez raison. Il y a une chose étonnante aussi qu'on sait peu, c'est qu'il y a une pub pour les pâtes que vous avez fait.
Oui. Oui, oui, oui. J'ai adoré faire cette pub parce que c'était des pâtes françaises, issues de très très bons produits. Et puis, il y avait ces petits bonshommes verts, ces petits martiens, qu'on appelait les marxiens, et qui emmenaient ces fameuses pâtes dans l'espace. Et la dame qui les cuisinait.
Il y a aussi une apparition dans Joséphine Ange Gardien, je crois.
Oui, oui, c'est un contrat pour une de nos écoles d'insertion à Paris. Et j'ai eu beaucoup de mal. Heureusement qu'ils m'ont beaucoup aidé pour apprendre mon texte et dire mon texte.
Alors, avant d'en arriver là, il y a eu un parcours, on a parlé du Cheval Blanc, mais il y a eu aussi un restaurant qui s'appelait Roque en Val, à Mont-Louis-sur-Loire, qui était important.
Important, première étoile, première collaboration, petite équipe de gens extrêmement motivés. Et puis surtout les bords de la Loire, les vins de Mont-Louis, Tours, ville emblématique pour le compagnonnage, mais ville aussi extrêmement attachante. Moi j'ai des souvenirs de la cathédrale de Tours, de cette visite de cette ville charmante et charmeuse en même temps, qui était presque un petit Paris. Donc j'ai adoré cette période tourangelle.
Et Mont-Louis d'ailleurs, c'est là où Michel Debray a passé ses dernières années de sa vie. Alors, il y a eu ensuite Bordeaux ?
Oui, Bordeaux, enfin Pauillac, très exactement. Parce qu'effectivement, quand je rentre du Japon, je pense qu'on me propose un poste à Bordeaux. Mais je m'aperçois qu'il y a 50 km entre Bordeaux et Pauillac. Et je vais me tromper deux fois. Je vais traverser deux fois l'énorme pont de Bordeaux. Et puis, je vais finir par arriver dans le Médoc au mois de février. Il n'y a que des piquets de vignes, c'est pas très joli. Et je tombe amoureux de l'endroit. C'est-à-dire, je trouve que le Médoc est une presqu'île fabuleuse, que les Médocains et les Médocaines sont des gens formidables. Et je découvre la qualité des vins, bien sûr, un terroir, bien sûr, mais aussi des hommes et des femmes qui font ce vin, et puis des hommes et des femmes qui font aussi la culture médocaine, la pêche à la pibale, la pêche au maigre avec Monsieur Gouzil, l'élevage d'agneaux de Pauillac avec Domingo. J'ai des moments de Médoc qui me manquent encore aujourd'hui, hein, parce que j'ai adoré cette région, et je l'ai adoré 8 mois par an.
Et vous êtes arrivé à Paris au Mandarin Oriental, qui est devenu aujourd'hui un classique, hôtel-restaurant. Et c'est vraiment, ça a été ça aussi un combat très fort, parce que vous êtes un combattant, Thierry Marx.
Oui, mais c'est vrai que le Mandarin, je voulais retourner... je voulais pas travailler au Mandarin Paris, forcément. Je voulais retourner travailler au Mandarin de Tokyo. Et je voyais que le mandarin de Tokyo était... je veux vraiment de retourner au Japon. Je passais presque 3 mois de l'année au Japon. Et ça fait 28 ans que je travaille au Japon. Et je voulais absolument travailler là-bas. Et puis le groupe mandarin m'a fait faire un petit tour du monde, comme ça. Et ensuite m'a proposé de prendre le poste d'exécutif chef du mandarin Paris. Belle aventure, belle compagnie. Et puis... voilà, je regrette rien. Le retour à Paris a été difficile, mais formidable. Parce que personne ne vous attend et personne n'a envie de vous revoir.
Voilà.
Tout le monde vous fait l'accolade, mais on se dit, il va venir quand même déranger des cercles qui sont déjà établis par d'autres.
C'est effectivement. Alors, il y a eu aussi quelque chose qui s'est passé, et on va l'évoquer à travers une chanson. Telstar par Colette de Réal. Pourquoi je parle de cette chanson? Parce que c'est le premier satellite de télécommunication et en France, et que finalement, bah, l'espace, vous l'avez découvert de façon incroyable grâce à un astronaute, Thomas Pesquet.
Oui, Thomas Pesquet nous a fait confiance, il a fait confiance au Centre français d'innovation culinaire qui est sur le campus de Saclay, sur l'université de Paris-Orsay. Et pour nous, c'est une mise en lumière pour ce centre, parce que c'est une chaire universitaire qui travaille sur quelle gastronomie, c'est quoi la gastronomie du futur. La mise en lumière par Thomas Pesquet a été pour nous une expérience incroyable, le vol en 0G, une expérience incroyable. Et je me souviens du vol avec Jean-François Clairvoix, et d'avoir le feedback aussi de l'expérience de Thomas Pesquet, nous expliquant la planète et l'état de la planète vu de là-haut. Et tout ça, pour nous, ça a été des pistes de recherche, et c'est encore des pistes de recherche pour notre chaire universitaire.
Oui, et de recherche en cuisine moléculaire.
Alors, de recherche en cuisine moléculaire, parce que moléculaire, ça n'intéressait personne, si ça avait été une tendance de cuisine. Alors, on est nombreux à s'être grillé un peu les ailes sur cette cuisine dite moléculaire, or que la cuisine moléculaire, ça n'existe pas vraiment, c'est surtout un outil de compréhension. Et ça, c'est pour ça qu'on a la chance aujourd'hui avec le Centre français d'innovation culinaire de pouvoir rassembler plusieurs cerveaux qui travaillent sur la recherche et le développement autour de l'alimentation de demain,
oui,
et la cuisine durable. Et qui arrive à changer des choses et surtout à travailler sur notre agriculture. Parce qu'il n'y a pas de bonne cuisine, comme disait Paul Bocuse, sans bons ingrédients, mais sans bon sol, sans bonnes plantes et sans animaux bien traités et bien nourris. Donc ça veut dire que notre histoire de cuisine moléculaire qui paraissait être un feu de paille, finalement a été une piste d'exploration et est encore aujourd'hui une piste d'exploration extrêmement importante pour le devenir de cette gastronomie.
Et cette gastronomie, vous l'évoquez dans ce livre, dont on va parler dans quelques instants à travers une autre date, le 11 novembre 2020. A tout de suite sur Sud Radio avec Thierry Marx.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Thierry Marx, 11 novembre 2020, sorti de ce livre, Celui qui ne combat pas a déjà perdu chez Flammarion, un livre dont le titre correspond parfaitement à votre caractère et en même temps où vous tirez les leçons de la crise que nous vivons actuellement, Thierry Marx.
Oui, mais c'est étonnant parce que le 15-03, on apprend la fermeture des restaurants et le 18-03, on est confiné. Donc il y a deux options, soit on reste sous l'hypnose de la Covid et on est paralysé devant nos écrans et on attend avec le décompte macabre qui arrive, qui était énoncé tous les soirs, ou alors on se dit non, il faut se relever, il faut avancer, bien sûr en respectant les gestes barrières, bien sûr en respectant ce qui était demandé par les services sanitaires, mais continuer à se battre et d'essayer de traverser cette période avec un projet, parce que c'est compliqué. Alors j'ai commencé à écrire, à faire le point, aussi, à faire le cap, comme pourrait dire un marin. J'ai regardé un peu les personnalités que j'avais rencontrées, qui étaient en souffrance et qui on pouvait aider dans ces moments-là, et puis d'essayer de proposer quelque chose de nouveau. On voyait que le train de l'économie était à l'arrêt, en rase campagne, qu'il allait repartir, parce qu'on voyait bien les frémissements en Asie, mais pour aller où? C'est quoi le projet? Et je pense qu'on devrait travailler sur une économie beaucoup plus saine, avec des croissances plus en confiance, et surtout des croissances avec impact social et impact environnemental. Et c'est pour cela que j'avais fait une tribune, pas en réclamant, mais en proposant l'idée d'un grand fonds d'investissement sur 10 ou 15 ans pour aider à cette transition écologique, pour aller vers des consommations beaucoup plus modérées, et surtout la consommation de cette planète, et de faire de la croissance, oui, mais une croissance plus, plus en conscience et, comme je viens de le dire, plus à impact social et impact environnemental.
Et dans ce livre, Thierry Marx, vous évoquez effectivement la fin d'une époque et vous dites qu'il faut ramener l'agriculture dans les grandes villes parce que la terre est un village.
Oui, la terre est un village, ça a tout souvent été annoncé. Moi, j'écoute beaucoup les conseils quand je le rencontre de Gilles Boeuf. Et il avait fait une chronique, pas une chronique, une tribune qui était très intéressante. Il dit, ce que l'on paye dans cette Covid, c'est notre arrogance, notre imprévoyance et notre cupidité. C'est pas faux. C'est-à-dire qu'on peut pas croire que de dépeupler la forêt amazonienne, ça n'arrivera pas un jour à nous polluer chez nous et à nous nuire à nous. Donc je pense que je fais partie de ces gens qui croient à un meilleur comportement sur cette planète et notamment d'avoir une consommation plus en relation avec la... potentiellement 10 milliards d'individus en 2050 sur cette planète.
Oui, on en a parlé pendant des années, mais personne n'a pris ça au sérieux. Il a fallu du temps, Thierry Marx.
Il a fallu une date, la Covid.
Oui.
Peut-être que là, on a pris conscience que la nature n'avait pas besoin de nous. C'était terrifiant. Moi, je marche, je vis sur l'eau, je vis sur la Seine. Donc, je voyais des canards qui commençaient à déambuler rue du Bac. C'était très drôle, alors on voyait la nature qui reprend ses droits en disant on n'a pas forcément besoin de vous les humains, donc il va falloir faire attention à moi, la planète, et je pense qu'on a une date historique pour refaire un cap. Bien sûr, je ne crois pas à la décroissance, je ne crois pas à tout ça, je ne crois pas qu'on va revenir à s'éclairer à la bougie et à rouler en char à bœuf, mais je pense qu'il faut partir vers des consommations beaucoup plus rationnelles, beaucoup plus modérées, et de reprendre conscience que cette planète, il n'y en a pas de rechange, comme dit Thomas Pesquet, vous avez évoqué Thomas Pesquet tout à l'heure, il dit qu'il n'y a pas de planète de rechange.
Non, pas pour l'instant en tout cas. Et alors il y a quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous aussi, c'est un enseignant d'AXA, la compagnie d'assurance, qui s'appelle José Gutmann.
Oui, c'est drôle, c'est José Gutmann, je le voyais chez AXA Millésime, hein, j'entends. Et c'est un monsieur qui un jour m'a dit « t'es un bon artisan, mais t'es pas forcément un très bon manager ». Et je dis « de quoi il se permet de me dire ça ?» Et puis finalement, j'ai bien fait de l'écouter. Et il m'a poussé à prendre des cours, et il m'a fait suivre des cours pendant 3 ans, qui m'ont beaucoup appris, et il avait une technique de management qui était extrêmement intéressante, pas de pression excessive sur les collaborateurs, mais avec des outils extrêmement bienveillants, durs avec les faits, mais bienveillants avec les gens. Et je pense que j'ai beaucoup appris de cet homme qui m'a fait passer du statut de chef de cuisine au statut de chef de cuisine et de chef d'entreprise. Ça, je lui dois ça.
Oui, car vous avez créé, Thierry Marx, un labo expérimental et une chaire universitaire.
Oui, alors ça, c'est avec Raphaël Aumont, la chaire universitaire. C'est le directeur de la chaire universitaire, c'est Raphaël, mais j'ai aussi créé mes propres entreprises de développement.
Oui, et surtout ces écoles dont on parlait. Alors, c'est l'œuvre de votre vie, Thierry Marx.
Oui, parce que j'adore ça, et je pense que... des fois, par moment, j'ai des doutes, pourquoi, à quoi ça sert. Et je me souviens, en travaillant avec une administration pénitentiaire qui était en Finlande, je m'interrogeais avec un chef de détention et je lui dis « Mais à quoi ça sert ces combats qu'on mène ?» Et il me dit « Tu sais, il faut faire les meilleurs voisins possibles. Et le meilleur voisin possible, c'est quelqu'un qui a un projet positif. Et je crois qu'on ne peut pas laisser les personnes au bord de la route. Il faut les aider, il faut aider certaines personnes qui le souhaitent à avoir un projet d'épanouissement, projet professionnel et projet d'épanouissement. Et je crois que ces écoles répondent bien à cela, ça permet à des personnes de retrouver le chemin de l'épanouissement.
Oui, car ces écoles, ce sont des écoles destinées au sans-emploi.
Alors, ce sont des écoles destinées au sans-emploi, mais surtout à des personnes éloignées de l'emploi qui, à un moment donné, sont sous tous les écrans radars. Donc, les réponses dont elles ont besoin, c'est des réponses en moins de 15 jours. Il faut les aider à retrouver un projet métier et puis de les faire entrer facilement dans ces projets métiers.
Oui, c'est pas une école où on ne parle pas de la vie active, au contraire, c'est essentiel.
On est tout de suite dans la vie active, c'est-à-dire qu'on est dans le faire pour apprendre. On a un acronyme d'ailleurs qui dit rigueur, engagement, régularité. Rigueur, c'est le projet, c'est son projet. C'est la personne porte son projet de cuisinier, de boulanger, de poissonnier, peu importe. Ensuite, l'engagement, c'est de lâcher la main du passé. Pas de lâcher la main de qui on est, ça c'est notre patrimoine. Mais lâcher la main du passé quand le passé a été un peu compliqué. Et on a des aides pour ça. Et la régularité, pendant ces 11 semaines de formation, pas d'absence, pas de retard. Et avec cette monnaie d'échange, parce que la monnaie n'est pas forcément l'euro. Cette monnaie d'échange de l'engagement, finalement, on a 92% de gens qui retrouvent une situation à l'emploi et 7% ont créé leurs propres entreprises. Vous voyez, en 10 ans, c'est quand même c'est quand même important.
Oui, et en même temps, quand vous avez créé la première école, on vous a un peu rayonné, ça n'a pas été facile de trouver l'argent pour le faire, Thierry Marx.
Non, ça n'a pas été facile pour trouver l'argent pour le faire, effectivement. Mais là, merci Top Chef, merci M6, parce que sans cette visibilité médiatique, il est probable que ces écoles ne dureraient pas, n'auraient pas duré. Mais aujourd'hui, comme on a prouvé un certain nombre de fois que ces écoles avaient du sens, eh bien aujourd'hui, il y en a 9 aujourd'hui en France, mais il y en a 2 à l'international, une en Colombie et une aux États-Unis.
Et à chaque fois, avec des élèves, ça ne désemplit pas?
Ça ne désemplit pas parce qu'il y a effectivement beaucoup de demandes, des gens qui sont en précarité, qui à un moment donné se disent « mais pourquoi pas moi ? Je peux aussi devenir un chef connu, je peux aussi devenir un boulanger connu, et il suffit que je me forme ». Nous, ces 12 semaines, bien sûr qu'elles ne sont pas suffisantes, ces 11 semaines de formation, mais la montée en compétences se fera en situation opérationnelle métier. Donc ces personnes vont grandir avec l'entreprise, et puis ensuite, elles vont s'épanouir en tant que chef, j'espère, ou chef d'entreprise.
Il y a de ces écoles, je pense que votre passé n'y est pas pour rien, Thierry Marx.
C'est, oui, probablement vrai, parce que à un moment donné, quand vous n'êtes pas fils d'eux ou élève d'eux, il y a des parcours qui sont plus compliqués. Je ne crois pas à l'ascenseur social, ça c'est une fumisterie qu'on a bien voulu nous servir pendant des années. Je crois à l'escalier social. Le rôle de l'État est de faire en sorte que les marches soient égales pour tous, elles soient équitables, et de proposer cette notion de l'effort pour aller vers un épanouissement par un projet. Je crois beaucoup à ça, et ces écoles représentent ça.
Oui, et en même temps, vous avez donné des idées à d'autres, parce que la notion de l'effort, vous en êtes aussi un pionnier dans votre genre.
Oui, mais je ne sais pas si c'est l'effort ou si c'est la persévérance, j'ai beaucoup de mal, je travaille beaucoup là-dessus, mais à un moment donné, cette notion de l'effort, il faut qu'elle soit accompagnée, et que vous puissiez en toucher assez rapidement les résultats. Et c'est tant qu'il y a un projet, il y a un objectif à atteindre, et c'est comme ça qu'on arrive à aider des personnes à s'épanouir dans un projet métier.
Oui, et pour arriver à tout ça, vous pratiquez beaucoup la méditation, Thierry Marx.
Oui, ça me fait du bien. J'aime ça, j'ai découvert ça il y a une vingtaine d'années, un peu plus peut-être. Au départ, c'était réservé à, on pensait à quelques... Zulu Berlu, et puis j'ai découvert au Japon, notamment au Mont Koyasan, la pratique de la méditation, et puis j'ai ramené ça un petit peu dans mes bagages, pas que d'ailleurs, et puis je continue à pratiquer, je trouve que ça permet de mettre du temps entre ses émotions et l'action qu'on doit mener.
D'ailleurs, le Mont Koyasan, aujourd'hui, l'UNESCO l'a inscrit au patrimoine mondial,
oui.
Et c'est un lieu fréquenté pour la méditation avec des sites sacrés, et effectivement, moi je me souviens des années 70, où quand Dalida est partie prier dans un ashram, mais on lui a rayonné, tout le monde s'est moqué d'elle.
Oui. Et oui, je comprends la moquerie, mais le Mont Koyasan, quand il a été nominé au patrimoine de l'UNESCO, ça ne m'a pas forcément fait plaisir, parce que c'est des lieux qu'on veut garder presque pour soi. Quoi. C'est tellement... Quand j'arrive la première fois au Mont Koyasan, on doit être en 88-89, c'est quand même assez... extraordinaire, vous vous dites, mais je suis où et quand?
Et la méditation, d'ailleurs, vous la recommandez, vous l'expliquez dans votre livre, Thierry Marx, dans l'entreprise.
Ah oui, on n'a pas essayé, d'ailleurs, on l'a un petit peu amené dans le monde de l'entreprise, on a amené le tai chi, on a amené le yoga, et ce sont des outils que les collaborateurs peuvent utiliser s'ils le souhaitent, bien sûr, il n'y a aucune obligation à cela, mais beaucoup étaient... un peu sur le reculoir quand ils voyaient ça. Et puis finalement, d'année en année, on voit de plus en plus de participants, parce qu'il y a un côté anxiogène dans ce rythme de vie. Aujourd'hui, on a mis les ordinateurs en réseau en 1997. Vous voyez bien au rythme auquel nous pousse finalement un simple téléphone portable. Donc à un moment donné, il faut des moments de respiration. Et l'architecture du corps, c'est quand même la respiration. Et il faut ces moments de méditation qui vous permettent de mettre du temps entre l'émotion. Et l'émotion, elle est à la seconde aujourd'hui. Et l'émotion et l'action que vous devez mener, ou ne pas mener d'ailleurs.
Oui, en même temps, les grandes entreprises internationales ne pratiquent pas la méditation. On pousse plutôt les gens à travailler encore plus, Thierry Marx.
Oui, mais je pense aujourd'hui que, encore une fois, cette date de la Covid va nous faire prendre acte de bien regarder notre temps présent.
Dans ce livre, vous dites qu'on vous appelle le docteur Folamour des papilles, Thierry Marx.
C'est un de vos confrères qui avait écrit cela dans un gentil article. Et vous êtes un peu le docteur Folamour. C'est vrai qu'on a osé des fois dans nos cuisines des hybridations qui étaient un peu étonnante et détonnante.
D'ailleurs, le docteur Folamour, c'est un film de Stanley Kubrick. Ouais. Il souffre dans ce film d'apraxie diagnostique. C'est le syndrome de la main étrangère. Et les chercheurs de l'université d'Aberdeen ont identifié cette affection neurologique pour la première fois et ils l'ont appelé le syndrome du docteur Folamour.
Oui, j'avais lu ça.
Alors, vous avez aussi repris le Jules Verne parce que vous n'étiez pas assez occupé. Ouais. La Tour Eiffel, là aussi, c'est un symbole pour vous, Thierry Marx.
Alors, c'est mon collègue Frédéric Anton qui a repris le Jules Verne. Moi, j'ai pris la brasserie, oui. Madame Brasserie, l'ancien 58. Premier étage, j'adore, parce que je voulais vraiment la brasserie. Et pour moi, le plus beau symbole français, c'est quand même la Tour Eiffel. Je trouve que c'est ce qui démontre qu'il n'y a pas de conflit entre tradition et innovation. Dans la construction de la Tour Eiffel, vous retrouvez effectivement Gustave Eiffel et toutes ses compétences, mais aussi la main du simple ouvrier, le vageur, qui était Eugène Milon. Le chef de chantier, ce charpentier qui est passé de la charpente bois à la charpente métal et qui a levé la Tour Eiffel avec beaucoup de talent, ça montre bien toute la... Je trouve que le symbole de la Tour Eiffel et de la baguette de pain est tellement fort en France et cette Tour Eiffel montre bien l'innovation française. Et on s'est laissé un petit peu embarquer en pensant que les Français, pas beau, pas bien, on était un peu ringard et c'est ça, mais on démontre encore qu'on est là et qu'on sait s'imposer dans l'innovation.
Oui, vous avez mené déjà bien des combats, je pense que vous allez en mener beaucoup d'autres maintenant.
J'espère.
Voilà. En tout cas, les premiers combats, ils sont racontés dans ce livre. Celui qui ne combat pas a déjà perdu chez Flammarion, Thierry Marx. En même temps, les combats, c'est pour 2021.
Les combats, c'est pour 2021, c'est maintenant.
Voilà, et on y va tout de suite. Merci d'avoir participé à ces clés d'une vie et puis continuez à travailler comme ça pour l'avenir de la planète et on vous en remercie.
Merci à vous.
Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt et surtout, restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.